France Culture, les matins d'été, Julie Gacon.
L'administration pénitentiaire l'avait identifié comme fragile et organisé une ronde toutes les heures pour éviter un éventuel passage à l'acte, comme on le dit pudiquement. Des précautions qui n'ont pas empêché ce détenu de 48 ans de se donner la mort avec ses draps mardi dernier dans le centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis en région parisienne, où il avait été placé temporairement dans le quartier des arrivants, comme on dit. Cet homme de 48 ans avait donc été identifié comme fragile. Une enquête est ouverte, comme après chaque décès de détenu. 11 suicides ont eu lieu dans l'établissement depuis le début de l'année. Bonjour François Besse.
Bonjour.
Vous êtes le coordinateur du pôle enquête de l'OIP, l'Observatoire International des Prisons. Merci d'être avec nous. Votre travail consiste à lire tous les courriers adressés par des personnes détenues ou par leurs familles. Et à chaque fois, vous enquêtez sur des soupçons d'atteinte aux droits ou de dysfonctionnement, le cas échéant. Est-ce que pour l'un ou l'autre de ces suicides à Fleury-Mérogis, vous avez été contacté, vous avez été saisi?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a eu, en plus de ces 11 suicides, il y a eu également deux décès de personnes détenues depuis le 1er janvier. Et on a, pour la plupart, été contactés par des proches ou la famille. Donc, systématiquement, on les accompagne dans un premier temps sur les démarches qui peuvent être faites. Parce que la première des plaintes qui arrivent de la part des familles, c'est l'absence d'informations de la part de l'administration pénitentiaire.
Ils savent pas ce qui s'est passé.
Non, ils apprennent le décès. Éventuellement, on leur dit qu'il s'agit d'un suicide, mais après, aucune information ou en tout cas très très peu sur les circonstances même qui ont pu conduire à ce passage à l'acte et puis à ce décès. Donc les familles restent dans le désarroi, c'est le moment où elles nous contactent, souvent très en colère, imaginant le pire, puisque avec l'impression qu'on essaie de leur cacher quelque chose, et on les accompagne essentiellement dans des procédures de plainte, parce que c'est malheureusement par le biais d'une plainte qu'on peut avoir accès au dossier, en tout cas l'avocat, et donc essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé.
Alors, mis à part deux cas, où un seul à Fleury-Mérogis et un autre à Toulouse, la prison de Cesse, où la thèse du suicide annoncée par l'administration pénitentiaire est contestée par la famille ou par les co-détenus, vous enquêtez sur les autres suicides, on peut jamais tirer de conclusion définitive. C'est vrai qu'on est avec des détenus qui, sans doute, cumulent les handicaps sociaux, scolaires, économiques, sanitaires, familiaux. C'est aussi ce que dit l'administration pénitentiaire. Mais vous, à l'Observatoire international des prisons, vous avancez un facteur aggravant, un climat de tension permanente et de pression spécifique à Fleury-Mérogis?
Alors, malheureusement, ou pas spécifique à Fleury-Mérogis, la situation en fait est extrêmement tendue, à la fois dans les établissements pour peine, où il y a des gens qui sont condamnés pour des très longues peines parce que c'est un temps mort, etc., et dans les maisons d'arrêt qui, elles, effectivement, sont dans une situation de surpopulation extrêmement grave.
Là, on a aussi des personnes qui étaient là pour de très courtes peines depuis le début de l'année. Un homme de 25 ans condamné à 3 mois de prison pour voyage habituel sans titre de transport. Il s'est pendu quelques semaines après son incarcération. Ou ce père de famille plus âgé qui s'est suicidé en avril, à peine arrivé pour exécuter une peine de 2 mois pour conduite sans assurance.
Oui, tout à fait. J'ai rencontré hier la mère du jeune homme qui avait été incarcéré pour 3 mois, qui est là encore dans un état de désarroi total, puisqu'elle n'arrive à avoir aucune information sur ce qui a pu se produire. Et au-delà de ça, effectivement, la douleur, elle est de dire, mais à quoi ça sert de mettre en prison un jeune homme qui n'a pas payé ses titres de transport, qui est là pour 3 mois seulement? Il devait sortir 5 jours après, puisque finalement, là, avec les réductions de peine, etc., la peine avait été ramenée à 1 mois. Il devait sortir 5 jours après, et donc là, elle a appris qu'il était mort.
Voilà, l'administration pénitentiaire précise qu'il s'agit de récidivistes. Comment vous diligentez votre enquête une fois les premiers éléments rassemblés?
Essentiellement, puisque systématiquement, dans le cas de décès, le procureur est saisi, et c'est le procureur qui mène des investigations. Nous, on est une association extérieure, on n'a aucun pouvoir d'investigation, donc on va saisir les différentes autorités qui potentiellement peuvent mener des enquêtes. Sur l'accumulation de ces décès à Fleury, on a également saisi le défenseur des droits et le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Le contrôleur a accusé réception de notre courrier et nous a précisé qu'il commençait des investigations et qu'il demandait la communication à l'administration pénitentiaire de tous les éléments susceptibles de comprendre un petit peu ce qui se passe.
Alors on a pourtant l'habitude, François Besse, d'entendre que les conditions de détention à Fleury-Mérogis, qui est la plus grande prison d'Europe, sont a priori moins dur dur que dans d'autres maisons d'arrêt franciliennes.
Oui, c'est la réalité, francilienne ou française d'ailleurs, hein, parce que si on regarde la situation dans les prisons d'outre-mer, c'est une véritable catastrophe. Fresnes, par exemple, est à 200% et dans un état de vétusté totale.
Oui. De surpopulation carcérale.
Oui, alors que Fleury, effectivement, a bénéficié depuis 2 ans d'une rénovation, ça veut dire qu'il y a des douches dans les cellules, ce qui n'est pas négligeable hein, au quotidien pour la vie des personnes détenues, mais on se rend bien compte qu'effectivement, un peu de ventilation et des douches dans la cellule, ça ne permet pas de régler tous les problèmes. La question, elle n'est pas immobilière, en fait. Elle est sur le fait que la surpopulation, ça veut dire des personnes entassées, une promiscuité obligée, finalement, et du coup, énormément de tensions. D'abord entre les personnes détenues, parce que vivre à 3 ou 4 dans 9 mètres carrés, 22 heures sur 24 en cellule, ça crée évidemment des tensions, et puis des tensions entre détenus et personnel, parce que les surveillants, ce sont ceux qui sont en première ligne, ce sont eux qui ouvrent les portes et qui prennent finalement ce ras-le-bol et cette éventuelle agressivité directement en pleine face.
Un peu de ventilation dans les cellules, dites-vous, c'était pas du luxe avec les températures de ces derniers jours. Vous avez, entre guillemets, profité de la canicule pour aller faire un tour dans les établissements?
Alors, oui, on ne va pas directement dans les établissements, toujours pour ne pas être soumis finalement au bon vouloir de l'administration, mais des gens contrôlent. Et puis on a les témoignages, autant de personnes détenues que d'intervenants ou de professionnels qui travaillent dans la prison, qui eux-mêmes à la fois constatent les conditions dégradées de vie pour les personnes détenues, mais le vivent également au quotidien.
Il y a eu ce clip de détenus de Villepinte qui se plaignent de la chaleur en prison. 4 d'entre eux ont réalisé donc ce clip de quelques minutes depuis l'intérieur de leur cellule. On voit qu'une fenêtre brisée a été remplacée par une plaque fixe. Ils disent qu'il fait 50 degrés dans leurs cellules, qu'ils ne peuvent plus respirer. Comment vont les services de santé dans les établissements?
Alors, il y a un véritable manque, là encore, qui est lié essentiellement à l'engorgement des établissements. Donc, il y a des moyens qui ont été donnés pour un nombre prévu de détenus, et quand le nombre de détenus augmente considérablement, les moyens des services sanitaires ne suivent pas. De plus, et ça c'est pointé depuis des années, une véritable carence en médecins spécialistes, ça peut être psychologue, dentiste, kiné, ophtalmo, etc. Ce qui fait que, à l'heure actuelle, la plupart des soignants nous expliquent qu'ils arrivent à peu près à répondre à l'urgence, et encore, et tout le travail qui pourrait être fait en amont, c'est-à-dire de prévention, d'éducation à la santé, et puis simplement de contrôle, hein, la prévention du cancer, des choses comme ça, ils n'arrivent pas à le faire. Et on a toujours en parallèle les plaintes des personnes détenues qui nous expliquent qu'ils ont écrit depuis des semaines, puisque toute demande doit se faire par courrier, et qu'ils attendent, ils sont sans réponse, ils n'ont pas eu de consultation.
François Besse, est-ce qu'il y a des prisons aujourd'hui qui vont bien, entre guillemets, où le taux de population carcérale est à peu près de 100%, voire moins, et où les détenus se plaignent moins, où les conditions de détention sont considérées comme à peu près correctes?
Alors, il y a des établissements, effectivement, où on n'a pas ou très peu de plaintes concernant les conditions matérielles de détention. En même temps, quand on regarde les prisons les plus récentes, qui ont été construites, les plaintes qui nous arrivent parlent de déshumanisation, parle de dureté, parle de finalement de solitude, de grande solitude, puisque ce sont des établissements où le contact humain qui pouvait être simplement le déplacement avec le surveillant pour aller en consultation au parloir, etc., est remplacé par des grilles qui sont ouvertes automatiquement, des surveillants qui sont derrière des écrans et qui débloquent, et tout ça crée une déshumanisation. À cela se rajoute le fait que des programmes de sécurité dans les établissements ont fait que la conception des dernières prisons ultra sécuritaires sont très concentrationnaires, c'est-à-dire que ce sont des petits espaces, finalement, même par les fenêtres, les détenus nous disent que parfois ils n'ont que quelques mètres, ils ne voient jamais l'horizon.
On parle par exemple de Lyon-Corba, souvent, qui est très fonctionnel, qui est parfaitement sécurisé, qui a pendant un temps incarné la prison du futur, jusqu'à ce que les violences à répétition et les suicides en série finissent par en faire un contre-exemple. Vous disiez aussi ces prisons ultra sécuritaires, mais qui n'empêchent pas des évasions. Et Redouane Faïd, s'il s'est évadé par hélicoptère le 1er juillet, c'était depuis une prison flambant neuve, celle de Réau en Seine-et-Marne.
Oui, alors de toute façon, là, il faut considérer une chose, et peut-être regarder également notre échelle des peines en France, c'est-à-dire que des condamnations à des années et des années de prison, Il y a beaucoup de phénomènes à la fois d'évasion, c'est-à-dire que les personnes n'ayant plus rien à perdre, hein, l'horizon est bouché, vont toujours chercher finalement à s'évader. Et la seconde chose, et c'est un phénomène qu'on voit régulièrement, toujours parce que les personnes sentent qu'elles n'ont plus rien à perdre et que l'avenir est complètement bouché, on a un phénomène de prise d'otage ou de violence finalement en détention, parfois pour des motifs qui sont simplement des demandes de transfert pour pouvoir être affecté dans une prison près du lieu où vit la famille, pour avoir un petit peu de contact avec ses proches, et ça conduit très souvent à des actes désespérés.
Il y a les évasions depuis des prisons ultra sécuritaires et donc des actes désespérés que vous citiez, puis il y a des évasions dans des prisons qui elles sont complètement délabrées, et justement cet état de délabration permet ces évasions, comme à Colmar, ces deux détenus qui se sont évadés de la maison d'arrêt le 30 juillet dernier, ils sont échappés en creusant un trou au plafond et en s'échappant par le toit. Donc des associations disent c'est parce que les prisons sont insalubres qu'on en arrive là.
Bah écoutez, oui, plus à peu près la moitié des prisons en France à l'heure actuelle ont été construites avant 1950, donc sont dans un état de délabrement assez avancé. Il n'y a pas de moyens, parce que pendant des décennies, tous les moyens, tous les budgets ont été consacrés à la sécurité et à la construction de nouvelles prisons, et au détriment finalement de l'entretien des prisons. Il y a des prisons relativement récentes qui sont totalement délabrées parce que pas entretenues depuis quelques années. Et on arrive effectivement, là c'est une image un peu caricaturale, mais qui montre l'état de délabrement. Mais ce qu'on a aussi comme plainte régulière, on l'avait eu sur la maison d'arrêt de Mulhouse, des détenus qui nous expliquaient qu'en cours de promenade, ils avaient failli se prendre sur la tête un bout de mur qui s'était décroché. Donc il y a aussi un véritable danger. Et puis cette vétusté, elle engendre très souvent aussi d'autres problèmes sanitaires qui vont être la prolifération d'insectes, de rats, de punaises de lit, la gale, etc. Et donc une véritable mise en danger des personnes détenues.
Pour rester un instant sur ces nouvelles prisons, on citait par exemple Lyon-Corba qui a remplacé la prison de Saint-Paul, laquelle était en plein centre de Lyon, près de la gare Perrache. Ces nouvelles prisons, elles sont de plus en plus excentrées des villes. Et ça change quoi, à la fois pour les détenus, pour les personnels, pour les familles?
L'isolement. L'isolement, c'est la première des choses. C'est-à-dire, à l'isolement de l'enfermement vient s'ajouter l'éloignement. Ça veut dire que les familles vont avoir beaucoup plus de difficultés pour venir à la prison et pour venir au parloir. Plus c'est loin, plus ça coûte cher. Il y a quand même des prisons où les 25 km entre la gare et l'établissement pénitentiaire doivent être faits en taxi parce qu'il n'existe aucune navette ou aucun moyen de transport en commun. Donc les familles, finalement, parce qu'elles n'ont pas assez d'argent, réduisent le nombre de visites, donc ça crée un éloignement, voire une séparation des familles, parce que avec le temps, les liens avec les proches se délitent, et donc un isolement qui en plus est extrêmement dommageable pour la réinsertion, parce que si les ponts se coupent avec ses proches à l'extérieur, la sortie sera encore plus difficile, plus compliquée.
Et qu'est-ce que ça change aussi à notre rapport à la prison? Parce que pour revenir sur Lyon, les gones lyonnais passaient tous les jours devant les murs de Saint-Paul et il y avait une sorte de proximité physique qui n'existe plus aujourd'hui. Est-ce qu'on se désintéresse par la même occasion de la prison?
Tout à fait, c'est-à-dire en gros, cacher ce qu'on ne veut pas voir. C'est vraiment du bannissement. La maison d'arrêt d'Ogny dans le Val-d'Oise, en Île-de-France, c'est pas compliqué. Le dernier rond-point, vous avez un panneau qui indique d'une part la maison d'arrêt, d'autre part la déchetterie. Et je pense que c'est assez symbolique de ce que ça représente. C'est-à-dire maintenant, ce sont dans des zones industrielles, parfois même dans les champs. Et ça, l'éloignement est vraiment renforcé, puisque même les intervenants, un avocat entre quelques kilomètres, mais en ville de manière accessible, ira plus facilement voir son client. Les intervenants qui vont en détention, intervenants, ça peut être enseignants, culturels, même les soignants, plus c'est loin et plus ça va être compliqué pour les gens. Donc il y a un manque véritablement d'intervenants également, et ça crée encore de l'isolement.
Bon, pour être tout à fait juste, il y a aussi des prisons très anciennes qui sont déjà très excentrées, comme celle comme la maison centrale de Clairvaux, qui se trouve sur la commune de Ville sous la Ferté, laquelle est une des plus excentrées du canton de Bar-sur-l'Aube, lui-même le plus excentré près des cantons de l'Aube. Il y a même ce texte d'un fonctionnaire pénitentiaire qui raconte son arrivée à Clairvaux dans l'hiver glacé de 1956. La route n'en finissait pas de tourner, 15 kilomètres de verglas que nous allions devoir franchir avant d'atteindre Clairvaux. En arrivant dans cette vallée, j'avais l'impression de me trouver en face du monastère de Tibesti. Fresnes aussi est une prison qui a été construite sur d'anciennes terres agricoles.
Alors effectivement, Fresnes était à la campagne au moment où elle a été construite. Fresnes a plus de 100 ans hein, et Fresnes va accueillir son 1000e détenu. Donc pour montrer un petit peu le roulement qu'il y a pu y avoir, c'est une prison vétuste qui maintenant est quasiment en ville et relativement bien desservie par les transports, contrairement à tous ces établissements modernes qui sont construits. Réau, c'est très compliqué pour y aller. Mauchoconin en Île-de-France également. Donc on a cette distance qui délite les liens et qui pose problème.
François Besse, l'État français a déjà été condamné une trentaine de fois par des juridictions françaises et européennes pour l'insalubrité et la surpopulation de certaines de ces prisons, la maison d'arrêt de Nîmes, de Fresnes, de Fleury-Mérogis, mais sans aucun effet derrière. Ce ne sont pas des jugements contraignants, des condamnations contraignantes?
Non, au niveau de l'État français, les condamnations qui sont au tribunal administratif, en fait, sont des procédures d'indemnisation, c'est-à-dire que la justice reconnaît qu'un traitement inhumain et dégradant a été infligé à la personne détenue et va lui accorder une indemnisation pour ces mauvais traitements subis. Mais en aucun cas, ce type de procédure ne permet d'obtenir le changement. On a engagé là des procédures, notamment sur Nîmes, Fresnes, Ducos en Martinique, dans lesquelles on demandait que des mesures soient prises, la dératisation à Fresnes par exemple, la rénovation, c'est un détenu récemment sorti de prison à Fresnes qui a engagé un recours pour demander l'agrandissement et la rénovation des cours de promenade. Donc il y a quelques mesures comme ça qui sont prises. À Ducos en Martinique, on a obtenu l'embauche d'un médecin supplémentaire pour assurer les soins des personnes détenues, mais c'est extrêmement rare. Et du coup, on a engagé des procédures au niveau de la Cour européenne, puisque c'est une des possibilités pour voir enfin bouger les choses, puisque là, je ne sais pas si vous avez vu, mais la condamnation pour les cours de promenade à Fresnes, donc
le tribunal administratif de Melun qui a sommé le ministère de la Justice d'agir dans les 6 mois.
Et le ministère de la Justice vient de faire appel de cette décision, c'est-à-dire de faire traîner les choses et de ne pas répondre à cette obligation qui serait de procéder aux travaux le plus rapidement possible.
François Besse, l'administration pénitentiaire avait mis en place il y a près de 10 ans ce qu'elle appelait un plan anti-suicide dans les prisons. L'expression est assez malheureuse, mais ça consiste en quoi aujourd'hui ?
Alors à l'heure actuelle, ça existe depuis 1998, les programmes de prévention du suicide. Ils ont en gros 2 volets. Un premier volet qui est d'essayer d'empêcher les gens de passer à l'acte. Et ça, on peut dire que c'est fait en détention, mais quelque part, c'est des mesures qui sont interdire aux gens de mourir. Et alors effectivement, un surveillant, s'il fait des rondes rapprochées, à un moment, il va pouvoir décrocher une personne qui vient de se pendre. Un co-détenu qui est placé dans la cellule va pouvoir alerter les secours. Encore faut-il qu'il réagisse et qu'il vienne. Mais le problème, c'est que le deuxième volet qui est préconisé et qui n'est pas assuré dans les prisons à l'heure actuelle, c'est travailler bien en amont. Essayer de faire en sorte que les gens ne tombent pas dans un état suicidaire. Essayer de faire en sorte pour ceux qui ne vont pas bien ou qui vont très mal, qu'ils aillent un peu mieux. Et ça passe par de la socialisation, ça passe par des activités, par le renforcement des liens avec les proches, donc plus de parloirs. Et dans la situation actuelle, notamment des maisons d'arrêt et des prisons isolées, ça n'est absolument pas fait. Les surveillants, ils passent leur temps à cavaler, à ouvrir et à fermer des portes, et ils n'ont pas le temps de s'arrêter 2 minutes, par exemple, pour demander à quelqu'un « Vous avez l'air d'aller mal, que se passe-t-il, qu'est-ce qu'on peut faire ?» etc. Donc on est dans une situation où on part au plus pressé en essayant d'empêcher les gens de passer à l'acte, mais on n'est absolument pas dans un vrai travail de fond sur la prévention.
Oui, alors que les surveillants devraient être partie prenante de ce dispositif, a priori.
Même si, effectivement, ils ont une formation qui est sécuritaire, de toute façon, ce sont quand même les seules personnes qui sont en premier contact avec les personnes détenues. Donc ça devrait pouvoir être des personnes qui, déjà, avec un peu d'humanité, peuvent faire redescendre des situations de tension ou de grosse dépression, mais également alerter. Mais pour alerter, il faut identifier.
Voilà, les surveillants ont-ils encore le temps pour cette partie valorisante quand même de leur métier? Le manque de moyens et la surpopulation carcérale ont raison de la meilleure volonté d'entre eux, car beaucoup en ont, il faut quand même le dire. On y revient après le journal, vous restez avec nous, François Besse, coordinateur du pôle enquête de l'Observatoire international des prisons.